Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas, parce que ça se voit pas forcément, et que
ça se dit pas
en fait.
Ça se dit pas,
ça se dit pas.
Ça ne se dit pas.
Où est la clé pour ouvrir la fenêtre? Parce que j'ai ma copine toquée, qui peut pas respirer.
Bon, cela dit, moi j'aimerais bien pouvoir ouvrir cette fenêtre quand même aussi.
Marie, à la clé!
J'ai chaud,
moi aussi.
Tu crois que...
Bah vas-y.
Il y a des casques anti-bruit. Ouais, chouette.
Donc ouais, t'es née à Paris. T'es pas née dans un hôpital psy.
Ça se dit pas.
Ça ne se dit pas.
Fuck off, m'emmerdez pas.
Diagnostic, c'est pas une étiquette. C'est pas comme dire je suis communiste ou je suis de gauche.
Et tu vois, à chaque fois, je me dis, mais vas-y, tu sais quoi, lâche tout ça en fait. Lâche, tu te préoccupes plus du tout de psy, tu lâches tout ça, tu vis ta vie, tu te prends pas. Sauf qu'en fait, je peux pas faire ça. Donc, on fait quoi dans ces moments-là quand en fait, on n'est pas capable de vivre normalement, entre guillemets, dans cette société de merde là? Et que en même temps, on a pas de. C'est dur de composer quand on est dans l'errance médicale, en fait.
Moi, ce que je crains un peu, c'est les gens qui se disent aussi potentiellement, ah, il faut encore qu'elle trouve un truc pour penser qu'elle est pas normale ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, putain. Mais...
Donc je sais, je me souviens même plus exactement quand j'ai pensé à l'autisme. La première fois, ce que je me souviens, c'est que même dans l'enfance, pourtant j'avais une vision de l'autisme assez caricaturale, comme on pouvait voir dans les films, etc. Mais n'empêche qu'il y avait des choses dans ces personnes qui étaient présentées de manière différente, avec... des fonctionnements particuliers, tout ça, il y a quelque chose qui me parlait, en fait. Il y a quelque chose qui me parlait là-dedans.
Même dans l'enfance ?
Même dans l'enfance. Mais évidemment, j'en parlais pas. C'est pas quelque chose que je me formulais vraiment. Mmh. C'était plus de l'ordre du ressenti, quoi. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, j'ai pensé que c'était juste un truc de différence que je reconnaissais.
Oui, c'est ça. Tu vois ? Parce que moi, en fait, je me suis toujours sentie à...
C'est ça.
En recul, en fait, par rapport aux autres. Mais je me suis jamais dit... Ouais, décalé. Mais pour moi, les personnes autistes, c'était... c'était, voilà, des gens... Enfin, le gros cliché, quoi.
Et ben... En tout cas, je sais pas. Moi, je pense que je reconnaissais dans cette différence... Enfin, je pense que je me sentais tellement en dehors et à côté, en fait, que ce soit à l'école ou... Quoi, ou même par rapport à ma famille, je sentais que j'étais... Enfin, ce qui est bizarre du coup, mais quelque part, je me sentais pas comme eux.
Ouais, ça, je plus sois aussi.
Mais voilà, mais je pense qu'à enfin, à l'époque, évidemment, je me disais pas du tout. Enfin,
oui, c'était pas conscientisé, non. Quoi, de toute façon.
Non, non, j'étais trop jeune. Et puis, j'avais quand même effectivement cette... tous ces préjugés sur l'autisme, comme quoi ça pouvait pas me concerner, c'était
oui, et puis peut-être déjà à l'enfance une sorte de rejet aussi de l'autisme, quoi, parce que
présenté comme une maladie, en fait,
présenté comme une grosse star, quoi,
enfin,
en fait,
dans les années 90, oui. Parce que c'est ça,
c'est pour ça que je parlais de cliché, c'est que c'était vraiment représenté comme
alors pas que, il y avait soit la grosse tare, enfin soit oui comme une tare comme tu dis,
oui, soit le génie,
voilà, soit le génie, mais le génie chelou, hein, le génie qui a pas d'amis,
les enfants donc, chelous, bah,
donc voilà, effectivement, je pense que c'est pas un truc auquel t'as forcément envie de ressembler quand t'es enfant.
C'est ça,
et que
c'est
tu
ça. C'est en ça que je dis le rejet, en fait. Enfin, voilà, déjà, la psychophobie, je pense que... Enfin, quand on... De toute façon, quand on se sent à l'écart et qu'on veut direct s'intégrer, ouais. En fait...
Tout va morcer, un même goût, ça m'a d'autres, j'y drague. Bon, bref...
Pardon, je t'ai coupé, mais je pensais juste au fait que tu m'as dit que, enfin voilà, ton arrivée en psychiatrie, ça a quand même été parce que les gens
Mes professeurs me trouvaient étrange. Voilà, c'est le mot qu'ils ont employé.
People are strange when you're a stranger.
Et en fait, les premières fois que je me suis retrouvée à l'hôpital psy et tout.
Faces look ugly when you're alone.
Moi, j'ai eu la sensation quand même de chercher un refuge. Et c'est en ça aussi que je reste attachée à l'hôpital psychiatrique. C'est que l'hôpital psychiatrique, quoi qu'on en dise, sert de refuge à tout un tas de personnes qui ont plus ou moins des pathologies psy, etc. Moi, j'ai croisé aussi des personnes qui étaient sans-abri et qui se retrouvaient dans le système psychiatrique parce que, ben, en fait, c'est un système aussi qui accueille dans certains cas. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je savais pas, je me sentais pas malade psychiquement. C'est ça qui est fou. Mm. Mais c'est que je sentais que par contre,
que t'étais en décalage.
J'étais en décalage total.
Ouais, ça, je comprends.
J'étais en décalage. Et quelque part, l'hôpital psy, pour moi, ça a été une voie de d'aller chercher, en fait. Mm. Voilà. Et en même temps, ça me faisait complètement flipper parce que, évidemment, quand même. Bah, quand t'arrives en HP, on te dit que t'es malade, en fait, quand même. Mais c'est marrant parce que je me souviens de ça. Je me souviens que moi, je me sentais pas forcément malade, mais que c'est un univers qui m'attirait parce que c'était un univers différent et que comme je me sentais pas du tout en phase en milieu ordinaire, en fait, je suis allée vers ça parce
oui,
que...
Oui, pour une compréhension aussi de ce sentiment de décalage aussi, peut-être. Enfin, il y a un moment, en fait, on a plus le temps passé, plus on cherche à comprendre...
Ouais, mais je crois qu'à l'époque... À 15-20 ans, c'était même pas une recherche de compréhension. Je crois que c'était aussi. Finalement, il y a cet autre univers-là qui s'ouvre, qui a l'air complètement flippant, mais en même temps intéressant et différent. Et de toute façon, ce que je vis, ça va pas en fait. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche. Enfin, il y a une dissonance profonde, quoi.
Ah, c'est le mot, dissonance.
C'est vraiment ce que je ressentais. Ouais. Bon, et après, voilà, et après, d'abord un diagnostic de trouble bipolaire, puis ensuite un diagnostic de trouble de la personnalité borderline. Et en fait, à chaque fois, et maintenant j'ai envie de dire, j'ai eu le tort de penser que ces diagnostics pouvaient expliquer, au fond, mon sentiment de différence et cette fameuse dissonance. Et sauf qu'en fait, ça n'a jamais été le cas. À chaque fois. Et je crois que c'est là que l'autisme est revenu sonner à mes oreilles. C'est que j'ai vu passer des choses, j'ai lu des articles, etc. Et je me suis dit, mais quand même...
ça résonnait plus.
Il y a des choses qui sont incroyables et qui sont plus de l'ordre du fonctionnement, de la sensibilité... ouais, et donc moi c'est à partir de là et puis bah, du coup je me suis de plus en plus renseignée et puis jusqu'au jour où tu m'as dit que toi aussi tu voilà c'est quelque chose qui te qui te posait beaucoup de questions et finalement t'as relancé et je t'en remercie d'ailleurs
mais en plus tu sais que c'est pas que j'ai hésité sur le moment
tu m'avais expliqué oui tu voulais pas m'influencer en fait.
Ouais, c'est ça. Je voulais pas, réveiller quelque chose qui t'appartenait vraiment et que je savais pas du tout en fait vraiment comment tu te situais par rapport à ça. Parce que quand tu nous en avais parlé, c'est vrai que je pense que moi déjà quand tu m'en avais parlé, j'étais un peu dans le déni. Donc forcément. Et puis bon, non, moi je venais d'avoir mon diagnostic borderline aussi.
Oui,
donc,
c'est ça, c'était beaucoup plus récent. Ouais.
Donc j'étais...
T'avais besoin d'explorer ça déjà.
Ouais, c'est ça. Ce qui est présent d'ailleurs chez moi. Enfin, je veux dire, le trouble borderline,
oui,
c'est pas...
L'un n'annule pas l'autre.
C'est ça, c'est que autant toi que moi... Enfin bon, après, voilà, on se pose quand même des questions, mais... Enfin, moi je pense que je...
Bah, y a aussi voilà, la question des traumas, la question... d'héritage familial aussi.
Ben, y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup. C'est super complexe, quoi. Non, mais je veux dire, dans le sens où Le trouble borderline, je pense que aussi bien chez toi que chez moi, il est réel en fait.
Bien sûr.
Après, depuis qu'on se penche sur l'autisme et que en fait on commence à comprendre que ça résonne beaucoup plus, que c'est beaucoup plus en accord en fait, et que ça se colle à cette dissonance en fait, parce que c'est ça en fait, c'est d'avoir trouvé. Après, tu vois, j'ai l'impression que toi, t'avais quand même cette certitude depuis longtemps, en fait.
Moi, ça me travaillait depuis longtemps.
Ouais, depuis longtemps.
Et donc, finalement, quand t'as réactivé ça chez moi, quelque part... parce que, en fait, ce qui s'est passé, moi, c'est que j'avais laissé tomber par découragement. C'est-à-dire que quand j'avais lu, effectivement, la question de poser des diagnostics d'autisme à l'âge adulte, etc., je m'étais dit, non, je me sens pas de m'engager là-dedans. Et je me sentais très seule, en fait.
Ouais.
Avec ça, parce que justement, bah oui, voilà, j'étais seule dans mon coin avec ça, et donc du coup, j'avais laissé un peu de côté par découragement, et c'est vrai que du coup, bah oui, de pouvoir d'en reparler, puis du coup, bah c'est sûr que je me sens vachement moins seule parce que on échange vachement. Et on...
Pardon, je rigole, mais moi, ce qui m'a fait marrer en fait, c'est quand du coup, je t'en ai parlé, tu as eu comme un moment de, tu vois, me dire. Oui, mais moi je l'ai vu depuis longtemps en fait. Tu vois, j'attendais que tu réagisses quoi.
J'étais très étonnée
que je m'en rende pas compte.
Enfin, en tout cas, j'étais étonnée quand j'en parlais au départ il y a 2 ans, c'est ça, hein, je crois.
Un an et demi, ouais. Ouais, presque 2 ans.
Que en tout cas ça te questionne pas, enfin que tu relèves pas en fait. Tu passais complètement à côté. Donc je me disais, bon, bah, elle se sent vraiment pas concernée. Et c'est vrai que ça m'étonnait, parce que je trouvais qu'on avait beaucoup de similitudes.
Bah ouais, je m'étais, à l'hiver, là, je m'étais penchée sur un gros trauma, en fait. Enfin, sur la raison de mon trauma complexe, je pense, et de mon trouble borderline. Et que, en fait, j'avais compris que je me rejetais. En fait, voilà j'ai eu la révélation, tu sais, que je me rejetais vraiment énormément. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je vais essayer de... d'aller à la rencontre en fait de ce que je rejette et de ce que je suis vraiment. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que, enfin, à me poser des questions sur l'identité de genre en fait.
Ah oui, ouais, c'est ça que tu m'avais dit. Ouais.
Et là d'ailleurs, bah, c'est devenu mon intérêt spécifique du moment, donc je connais, c'est bon, je les connais toutes les identités de genre, je suis implacable. Et derrière en fait, je sais pas comment c'est arrivé, l'autisme, quoi, le sujet de l'autisme. Petit à petit, j'ai relu, du coup, après, La différence invisible.
Mais parce que c'est vrai aussi que les personnes autistes, notamment sur Internet et tout, en parlent beaucoup aussi de ces questions de genre et de... Enfin, beaucoup plus... voilà, c'est vrai que c'est une population beaucoup plus concernée, en fait.
Bah, c'est surtout qu'en fait, moi, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, bah, voilà, je sais que je suis à genre depuis toujours, en fait, forcément, mais... Mais c'est vraiment un truc que j'ai réprimé en conscience, en fait. Tu vois, c'est devenu inconscient, mais, je me suis rappelé des moments où, en fait, j'ai essayé de partager aux gens que j'étais pas femme et que, en fait, bah, ça a été super mal reçu et que les gens essayaient de me rassurer dans le fait que, mais si, j'avais des attributs de femme et que j'étais pleine de féminité et tout, tu vois, et ils me rassuraient, genre...
Ouais, super.
Alors que moi, j'étais en mode... Enfin, j'avais ces deux trucs, tu vois, quelque part, parce que bah, tu veux t'intégrer, en fait, et du coup, correspondre au genre qu'on t'a assigné. Et bon, c'est un autre sujet, en fait. Mais du coup...
C'est par ce biais-là, en tout cas, que t'es arrivée à...
Ben ça a été la fin du cheminement, en fait, vraiment, qui m'a fait arriver à l'autisme, en fait. C'est quand je me suis rendu compte que je me rejetais complètement, en fait. Ben voilà, quand j'ai pris conscience de ça, je suis allée chercher qui je suis vraiment. Et qui je suis, ça m'a amené à l'autisme, en fait. Donc,
mais c'est ça, en fait, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce qui nous a amené à l'autisme, c'est ça. C'est quand même, c'est cette... Enfin, c'est en cherchant qui on était.
Qui on était, vraiment. Quand j'étais enfant et que on a voulu me faire sauter je sais pas combien de classes, qu'on dit à ma mère que votre fille quand même il y a un truc, on pense qu'elle est surdouée, tu vois, enfin c'est chelou quoi. Et puis enfin il y a toujours eu un truc étrange quoi, voilà, pareil. On me disait pas que j'étais bizarre, mais on sentait que j'étais différente, en tout cas.
Bah, moi, je... enfin, oui, et puis moi, on me disait que j'étais prétentieuse, alors que j'avais 9-10 ans, tu vois. Enfin, truc... et même, bon, après, au lycée, collège, mes profs me trouvaient insolente,
oui,
insolente, prétentieuse. Alors que moi, j'avais le sentiment de tout faire pour raser les murs, hein, tu vois, bizarrement, donc...
Oui, c'est ça, c'est des comportements inappropriés en fait.
Oui, je disais non, en fait j'osais dire non parce qu'il y a des choses que je rejetais violemment parce que je pense que pour moi c'était violent. Et sauf qu'en fait, bah, un instit, si tu lui dis non, catégoriquement.
tu remets en cause son
autorité. Il cherche pas tellement en fait. En tout cas à l'époque, il cherchait pas à savoir. Et pourquoi tu disais non quoi. C'est... Quand on me forçait à porter des robes, je sais pas, quand je devais avoir 7-8 ans et que j'étais mais en larmes, enfin ça me mettait dans un état. Je voulais pas quoi. C'était. Mais c'est fou. Enfin. Je saurais pas expliquer, c'était juste pas moi en fait. J'étais pas à l'aise dedans. Je voulais pas. Je pense que même à 7 ans, j'avais conscience qu'en robe on te regarde différemment.
Je me demandais en fait si c'était lié au fait que déjà tu sentais en fait qu'on t'a signé d'une certaine façon.
Je le sentais très fortement.
Et que du coup ça s'inscrivait dans l'expression de genre.
Mais sauf que du coup j'avais beau pleurer toutes les larmes de mon corps, etc.
Forcé
à la mettre.
Quelle horreur. Moi j'ai toujours aimé les jupes, les robes, enfin tu vois, ça m'a pas. Mais je les portais pas comme une fille en fait. Je sais pas comment l'expliquer, tu vois. Enfin, dans mon attitude, j'étais pas une fille en fait. Mais c'est pour ça aussi que du coup il y avait une certaine dissonance. C'était un peu chelou quoi. Et puis bon, après je suis devenue garçon manqué. Ça aussi, hein, ça se retrouve beaucoup chez les femmes, chez les personnes dites femmes autistes. Ouais. C'est dur d'avoir un diag à l'âge adulte, surtout quand on est assignée femme, parce que y a des stéréotypes de genre justement qui entrent en compte. Donc,
oui, puis tout se rejoint. Enfin,
oui, non, mais c'est ça.
Le camouflage aussi, etc. Enfin, tout ça c'est. Enfin, ça se passe en même temps, en fait, tout ça.
Quand tu t'es sentie chelou et différente toute ta vie depuis l'enfance, c'est pas étonnant d'avoir besoin de reconnaissance, enfin en fait d'avoir besoin, enfin tu vois ce diag, c'est ça que mes psys comprennent pas en fait quelque part, tu vois, ils refusent, moi ce que je trouve vraiment un peu violent parfois de leur part, c'est qu'ils refusent ce truc de comme quoi pour moi ça pourrait être un soulagement après toutes ces années d'incompréhension de moi-même de recevoir un diag comme ça, et ça pour eux c'est une excuse ou une fuite ou je sais pas quoi, et je trouve ça fou qu'ils pensent ça, je trouve ça tellement fou qu'ils pensent ça. Je pense que toi comme moi, on n'est quand même pas non plus du genre à sauter sur les diagnostics, enfin tu vois, on saute pas sur le premier diagnostic venu quoi, quand même. On fait quand même tout ce travail d'auto-questionnement, d'auto-analyse, de remise en question, enfin...
Évidemment que j'ai des choses à changer dans ma vie et que j'ai des choses sur lesquelles je peux travailler. Mais à côté, il est fort probable que, oui, en fait, j'ai un fonctionnement qui est inné, qui est comme ça, et que, en fait, si je le connais pas, je peux aussi passer de nombreuses années en analyse pour rien, parce qu'en fait, je passerai à côté de certaines choses, quoi. Et est-ce que, du coup, oui, un TPL peut se traduire par des traits autistiques à ce point mais alors du coup, faut aller chercher l'origine du TPL, encore une fois, est-ce qu'il y a une origine, machin ? Enfin, en fait, il y a un moment, c'est juste prendre des aménagements pour mieux vivre, en fait. Donc, on voit qu'on a des traits autistiques, il y a des solutions, on les prend, si ça nous fait du bien, tant mieux. Si ça marche pas, c'est qu'on doit aller chercher ailleurs. Tu vois ce que je veux dire, en fait ? Il y a un moment, c'est ce que je voulais dire à ma psy, je voulais lui dire, mais en fait, si je me trompe, j'irai chercher ailleurs, en fait. Parce que je veux la vérité dans ma vie aussi, tu vois, en fait. Au fond, je sais que je cherche la vérité et je cherche à aller mieux. Donc, et en fait, jusque-là, justement, moins je fuis et plus je me dirige vers ces questions de l'autisme et en parallèle des histoires familiales, des gros fantômes voilà, qui sont peut-être à l'origine aussi de certaines choses, mais pour moi, c'est tellement des choses différentes, quoi. Enfin, en fait, il y a des choses qu'on sent qui sont. Enfin, tu vois, ce fonctionnement TSA, enfin, ce TSA, en fait, je le sens en moi depuis que je suis enfant, et je sens que c'est quelque chose qui est. Je veux pas utiliser le mot pur, mais c'est pas ça. C'est que ça n'a pas été atteint par d'autres trucs, en fait. Je sais pas comment le dire. Même si. Il y a d'autres choses qui se sont rajoutées à ma vie, que c'est mon histoire et qu'il y a des traumas avec machin. J'ai l'impression que le TSA, c'est quelque chose de complètement isolé et que c'est pas quelque chose de pathologique et que c'est pas quelque chose de. Je sais pas comment l'expliquer,
Moi,
quoi.
j'en suis arrivée à l'hypothèse de j'ai un TPL parce que invalidation, trauma, etc., machin, et parce que neuroatypie non prise en compte dans l'enfance. Enfin, je le sais, en fait. Enfin, c'est sûr.
C'est dur d'être sûr, mais en fait, je pense qu'on peut pas se l'inventer, quoi.
Moi, je trouve que c'est une très très grande souffrance de pas avoir été diagnostiquée et d'arriver à un âge adulte et de plus savoir qui on est, quoi. Et de sentir au fond qui on est, mais de toujours avoir de vivre avec ce doute, quoi. Et le manque de diagnostic, ça fait ça, en fait. Ça fait ça en fait. Ça fait qu'on a, on a, on aura toujours le doute de qui on est.
Chelou un peu, toi, non?
Mais...
Avec Flo et Marie, faites le plein d'énergie.
Tiens, je t'ai pas prononcé les mots en croate d'hier, du coup. Alors, il y avait la vie, jivot, jiv, vivant, et jiva, vivante, et mrak, la noire.
Il y a un décalage qui est là depuis toujours, qui a été pointé du doigt par des médecins, par des professeurs, et que en fait rien n'a été fait, et que j'étais un enfant capricieux et puis anxieux, et puis enfin tu vois, on a mis plein de termes en fait, sauf le bon terme en fait. Entre guillemets, mon TPL a explosé quand j'avais 20 ans, là, quand j'ai vraiment commencé à être dans une anxiété qui n'était pas du tout, du tout, du tout gérable. Ça a été déjà super dur de tomber sur un psy qui me dirige vraiment vers quelque chose de juste. Et en fait, j'ai eu une mauvaise expérience et du coup, j'ai arrêté quand même pendant presque 14 ans. J'ai été dans une errance en fait pendant 14 ans sans suivi, sans. En me demandant, en cherchant moi de mon côté en fait, mais en me rejetant totalement quoi. Et du coup, pareil, un peu comme toi en fait, hein, on n'a pas posé le mot bipolaire, mais les premiers tests que j'ai faits, c'était des tests pour la bipolarité en fait. Et bon, on m'a dit que c'était pas le cas, mais que c'était certainement un trouble borderline. Et du coup, on m'a fait passer cette évaluation borderline, sauf qu'en fait, on n'a pas pris en compte plein de choses de ma vie. De mon vécu, on n'a pas pris en compte mes TOC, enfin, y a plein de choses qui n'ont pas été prises en compte en fait. Et voilà, et du coup j'en viens à ce que je voulais dire vraiment en fait, c'est que je me reconnaissais pas. Alors du coup j'ai exploré le trouble borderline, hein. Je suis vraiment allée chercher vraiment ce que c'était, et en fait plus le temps passait et plus je me rendais bien compte que je me reconnaissais pas forcément entièrement dans le trouble. Que les gens borderline, en fait, pareil, je ne me reconnaissais pas totalement, même s'il y a plusieurs. Voilà, c'est un spectre aussi, et que toute personne borderline est différente aussi, mais quand même, je voyais bien qu'il y en avait qui se rejoignaient vraiment dans leur comportement, et que moi, ça ne me parlait pas des masses. On en avait discuté d'ailleurs, hein, tu me disais que c'était.
Ok, moi, c'est pareil, enfin, y a plein de choses dans l'enfance que le
trouble borderline n'expliquait pas du tout.
Mais c'est ça, en fait. Et en fait, c'est ça. J'ai pris conscience que le trouble borderline n'expliquait pas tout à fait ce que je ressentais et mon fonctionnement. Que les traumas et le trauma complexe n'expliquaient pas totalement ce que j'étais et mon fonctionnement. Que mes TOC n'expliquaient pas totalement ce que j'étais et mon fonctionnement. Ni l'anxio-dépression, tu vois. Ou... Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Oui, et ce que je me suis dit, c'est que... En fait, il y a plein d'enfants qui auraient vécu la même chose que moi et qui n'auraient pas forcément été traumatisés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que toi, en fait, les choses te touchent à ce point, en fait? Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, en me disant, mais voilà, je ne me reconnais pas 100% là-dedans, ben, j'ai continué de chercher, en fait. Et qu'il y avait quand même un truc sous mes yeux, que quand ma pote Sarah, elle m'a donné goupil ou face, elle m'a aussi donné la différence invisible, et que du coup je me suis dit, bah, vas-y, c'est peut-être le moment de le relire, en fait. Et là j'ai relu, et après je suis tombée sur les vidéos d'Alistair et machin, tout ça, bon, bref, et j'ai commencé à me documenter sur l'autisme. Et en fait, c'est la première fois de ma vie, comme je te disais, que j'ai arrêté de me demander pourquoi je suis comme ça, en fait. J'avais trouvé, en fait. Ouais. J'ai trouvé, en fait. Et à ce moment-là, en fait, ça a été super dur, parce qu'en fait, à ce moment-là, mais un peu comme toi, en fait, c'est très vite, en fait, tu te dis que ça va être compliqué d'avoir un diagnostic à l'âge adulte, que ça va être stigmatisant. D'un côté, en fait, tu te dis, putain, ça y est, j'ai trouvé ce qui résonne. Ça y est, en fait, c'est ça, c'est cette dissonance, c'est un truc qui s'est recollé, en fait, c'est le terme, et je sais pas comment l'expliquer, en fait.
Non, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi, en fait, et c'est ça, enfin... Et en même temps, j'arrêtais pas de me dire, tu peux pas te baser sur du ressenti... Enfin voilà, c'est ce fameux doute en fait aussi qui revient tout le temps, de... et en même temps un espèce de truc qui s'explique pas, de concordance en fait.
Oui, voilà, c'est concordance. Ça, c'est le mot que je cherchais, concordance. Non mais c'est vraiment
à un
ça.
Moment donné, voilà, tout s'aligne et tout cet ensemble à la fois de comportement, de sensibilité, de, en fait, tout ça. D'un coup, globalement, la globalité prend sens, en fait. Tout prend sens depuis l'enfance.
C'est ça, c'est ça.
Là où, finalement, des troubles isolés, des choses prises de manière isolée, les traumas, le trouble borderline, le machin, en fait, ne n'explique... Enfin, voilà, ça se tient pas globalement, quoi. C'est des détails, mais c'est... Et l'autisme, c'est cette espèce de colonne vertébrale, quoi,
c'est
en
ça.
Fait.
Mais c'est ça, en fait. C'est ça. Et ce que je me disais, mais... C'est pas possible d'avoir autant de... Parce que ces troubles sont réels chez moi. Hein. Le trauma complexe, il est là. Le Bien TPL, sûr. Il est là. Les TOC sont Bien là. Sûr. Mais je me suis dit, il y a un truc qui englobe tout ça. Ouais. J'en suis persuadée, en fait. Et l'autisme,
ouais.
Quand je suis tombée là-dessus, mais c'est ça, en fait. À un moment, tout a fait sens. Et j'ai compris des épisodes de ma vie, de quand j'avais 20 ans, et de l'enfance aussi, mais surtout de quand j'avais 20 ans, cette période-là. Là, et je me suis dit que j'essayais d'expliquer par le trauma, par le TOC, plein de choses, ça marchait pas, en fait. Même le TPL, ça collait pas, quoi.
Et après, tu vois, moi je repense à quand j'avais 18-20 ans, et il y avait quand même aussi ce truc d'avoir besoin d'en faire 20 fois plus pour arriver à me faire comprendre, quoi. Et cette recherche de langage, et pendant longtemps, j'ai cherché un langage, et j'ai fini par arriver à l'art, mais je l'ai pas trouvé tout de suite, en fait. Et au départ, c'était le cinéma, mais j'étais que spectatrice, alors ça suffisait pas, tu vois, j'avais besoin d'un truc, j'avais vraiment besoin d'un langage que j'avais pas. Et je me souviens de cette... de à quel point c'était important pour moi, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est un truc... t'es drivé par un truc inconscient, c'est-à-dire que tu te dis pas, ouh là là, il faudrait un truc pour m'exprimer. Tu vois, c'est juste, tu sens que t'es pas comme les autres, et tu sens que, en fait, si tu veux arriver à sortir ce que t'as à l'intérieur et à pouvoir expliquer ce que tu veux expliquer, ça passera pas par le langage habituel, en fait, ou ça suffira pas, quoi.
Ça suffira pas.
Et puis parce que le langage habituel, toi, tu l'utilises pas de la même manière, en fait. Et chaque mot, t'y fais extrêmement attention, en fait, ce que font pas forcément les gens.
Ça les fatigue, les gens, très vite. Hein. Enfin, y a des gens que ça fatigue très vite, en tout cas.
Ouais, mais eux, ils font pas forcément
attention. Ou alors, attention. Ils disent qu'on est dans un truc... dans une bulle particulière ou dans un délire particulier ou tu vois c'est dur de faire accès, mais c'est un peu la description que tu faisais de l'autisme la dernière fois quand tu vois dans
c'est une un mode de oui je disais que c'était pas une, un ensemble de comportements mais une un rapport au monde et une perception, enfin une façon de percevoir
et tu parlais de la difficulté à partager en fait cette perception aux autres en fait
c'est ça t'as mal à la tête
hein. Non, mais je sais pas, ça me c'est pas rien quoi.
Non, moi j'avoue, c'est pareil, je disais.
C'est pas rien quoi, tu vois, on parlait de. Enfin, ça se dit pas, on fait notre coming out. Là, on est en train en fait, pour de vrai, je pense. On l'avait pas encore fait.
J'avais
quoi.
Pas du tout réalisé.
Ah, mais moi je le sentais, mais si, mais moi je sens. Mais c'était évident.
Je pensais pas que ce serait aussi émouvant, enfin riche en. Fort en émotion.
Bah, non, mais t'imagines.
Mais en fait, quand je nous entends, je me dis, mais. Eureka! Non, mais je veux dire, c'est. Enfin...
Ce qui est marrant aussi, je pense, ce dont on peut parler là, c'est le fait que. On s'est aussi rendu compte, avec. Maintenant qu'on a ce recul et cette connaissance de l'autisme aussi, et cette reconnaissance de l'autisme chez nous et dans nos vies. C'est qu'en ayant écouté, réécouté les anciens épisodes aussi, on s'est aperçu qu'on parlait déjà d'autisme, en fait.
Et... L'épisode 2, notamment, c'est de l'autisme.
Mais, oui, mais même le premier, où on parle de
phobie sociale. Ça, c'est un truc aussi, moi, ma phobie sociale que j'ai en fait depuis l'enfance, hein, puisque je voulais voir... Enfin, depuis l'enfance, j'ai quand même un... Oui, je fuis les gens. Enfin, ça a été très compliqué. Alors, on appelait ça timidité maladive quand
j'étais, non, mais c'est ça. On met
quand
des
j'étais gamine. Putain,
on mettait des termes super bizarres.
Mais enfin, on me traînait devant les gens. J'étais en larmes quand même. C'était d'une violence. Et en fait, je me dis que finalement, ce qu'on a appelé beaucoup plus tard phobie sociale, c'est peut-être en fait tout simplement une particularité liée à l'autisme. Et voilà, et du fait de ne pas aimer quand il y a trop de monde, parce que trop de bruit, parce que trop d'informations, etc. Et...
Mais merde, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, non, le fait que aussi, depuis... moi, depuis que j'ai pris conscience, en fait, de l'autisme, il y a une espèce de gros bagage, en fait, de violence qui est tombé, quoi. Que j'ai déposé en fait. Je sais pas si ça te parle ça, mais.
Si. Envers toi-même ?
Envers moi-même, ouais. J'ai vécu dans une violence extrême depuis que je suis enfant en fait, et qui s'est accentuée dans l'adolescence, mais de façon radicale. Et puis alors, la vingtaine, ça a été le chaos. Et je pense pas que ce soit pour rien, tu vois, que le... Enfin, la dernière fois, je faisais le trouble borderline, pour moi, c'est le trouble du rejet, parce que ça a été, tu vois, le summum de toutes ces années, en fait, de violence. Et en fait, on a grandi dans une violence, je pense, extrême, tu vois, quand tu dis qu'on te forçait à porter des robes, quand tu dis qu'on te forçait à t'exposer devant les gens. Moi, en fait, j'avais vraiment... Je passais mon temps à me boucher les oreilles. J'ai vécu avec dans un univers familial... qui était super, super, super violent et qui est bruyant. Et en fait, je ne supportais pas. Enfin, en fait, et personne ne voyait, en fait, que, ben, on avait des besoins
mais je pense
spécifiques,
que,
quoi.
Mais c'est en ça que le trou borderline, quelque part... Moi, des fois, je me dis... Je le remercie, en fait. Parce que quelque part, ça a été vraiment le signal d'alarme. C'est-à-dire que c'est le moment où tu ne peux plus... subir cette violence-là que tu décris, soit de la part des autres et de la société, mais du coup que tu t'infliges aussi toi-même pour te conformer à cette société. Et en fait, ce trouble borderline, il vient juste dire, mais arrête, tu peux pas, c'est plus possible, en fait. Et sauf que c'est très violent, hein, bien sûr. C'est ça. Mais ouais, des fois, je me dis, mais finalement, heureusement qu'il y a eu cette sonnette d'alarme à un moment donné.
Ouais, après, bon, voilà, nous, on le comprend comme ça, parce que derrière, en fait, il y a une neuroatypie.
Ouais.
Après, d'autres borderline qui ne sont pas neuroatypiques, le vivent certainement d'une autre façon, et il y a d'autres...
Parce voilà, que nous, on pense que le trouble border, c'est une comorbidité, en fait.
C'est ça, c'est une comorbidité, et aussi, enfin, chez nous, on a bien compris qu'il était lié à de l'invalidation, en fait.
Oui.
Donc, quand on reconnaît pas des besoins spécifiques, et notamment...
Les enfants neuroatypiques.
Voilà, d'enfants neuroatypiques, forcément, ça crée des dégâts. Mais en effet, c'est venu amplifier... Enfin, c'est l'histoire du faux self aussi, en fait. Tu vois, d'être quelqu'un qu'on n'est pas et de... Et en fait, c'est ça, la violence dont je parlais, c'est vraiment le besoin d'intégration, en fait, et d'acceptation des autres et de la société.
Et le trouble identitaire qui en découle.
Mais c'est ça. Et que les autistes sont des putains de caméléons et qu'on passe notre temps à...
Les assigner femmes.
Voilà, ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est ça, correspondre au rôle qu'on t'a assigné de plusieurs façons, quoi. Tout faire pour paraître normal, tout faire pour rentrer dans la case femme.
Et c'est une stratégie de survie, hein. Mais il y a même eu des moments dans ma vie où j'ai cru... que ce serait ok, en fait. Où j'ai cru que... Non, mais tu vois ce que je veux dire ?
Oui, oui, complètement.
Où j'ai cru que finalement, dans ces cases-là qui avaient été désignées pour moi, là, finalement, j'y arriverais et hop, peut-être personne se rendrait trop compte qu'en fait, j'étais pas normale.
Sauf
quoi.
Qu'en fait, le camouflage, c'est prouvé, ça marche pas. Bah, en fait.
Enfin, ça tient un temps.
Et le problème, c'est que c'est dévastateur pour la santé psy. Et que en fait ça marche,
mais c'est
ça
ce
marche
qu'on,
pas.
Mais
et...
c'est ce qu'on nous apprend, à faire, hein, que ce soit à l'école, etc. En fait, on te fait ressentir que de toute façon, si t'es différent, quand même, voilà, il faut que tu trouves un moyen de te conformer. Donc,
mais le problème, effectivement, c'est qu'on y croit, on essaie d'y croire nous-mêmes, en fait. On essaie. Mais le problème, c'est que en fait, quand on n'a pas conscience, ben voilà, qu'on est autiste. Finalement, on se dit juste qu'on est chelou et on se dit qu'on est des personnes en fait normales, mais des grosses merdes en fait. Hein. On se dit
voilà,
qu'on est des moins
faut,
que rien,
qu'il faut qu'on
n'y arrive pas,
force, qu'il voilà. faut qu'on se foute un coup de pied c'est au ça. Cul.
Que... Voilà, on en parlait du fait que en fait, on en a parlé il y a pas longtemps, qu'on pensait que c'était un manque de volonté, que c'était une histoire
ça.
De volonté.
C'est ce que nous renvoie. Moi, c'est aussi ce que m'ont renvoyé mes profs, etc. Non, mais elle a tout pour réussir. Elle a des capacités de dingue. Donc en fait, si elle réussit pas, c'est parce qu'elle est paresseuse en fait. C'est parce qu'elle a pas envie.
C'est ça. Ouais, mais c'est pour ça que je disais qu'il y a un bagage de violence que j'ai déposé, parce qu'en fait j'ai compris que mon fonctionnement il était juste différent et que je n'ai pas à me formater. Ah oui, et il y a
mais ça explique
que j'ai pas
en dit. Fait ça explique tout ce qu'on a vécu aussi, c'est ça, et ça c'est quand même un soulagement quand t'as grandi avec dans l'anxiété dans le permanente
Oui, et le poids de la culpabilité.
Oui,
aussi,
voilà.
Parce que je crois que c'est ça qui.
Puis cette sensation de jamais y arriver, ouais, c'est-à-dire t'as beau faire tout ce que tu veux,
oui,
en
l'échec,
fait, pour te conformer, t'y arrives pas,
l'échec,
quoi.
L'échec.
Donc,
ce qui ne veut pas dire que quand on est conscient de l'autisme, on y arrive forcément mieux à s'intégrer dans cette société qui n'est pas du tout inclusive et qui n'est pas faite pour nous. Mais déjà, on va moins se faire violence et on va essayer de trouver des solutions qui nous correspondent le mieux, quoi.
Oui, bah moi je sais que déjà, à partir du moment où j'ai commencé à être vraiment à l'écoute de mes besoins et de poser mes propres limites et mes propres règles de vie, en fait, etc., bah voilà, tu parlais de la douceur à un moment donné, bah ouais, en fait, c'est ça que ça amène aussi dans la vie quotidienne. Une fois que t'es conscient de ça, tu peux.
C'est la bienveillance, ouais.
T'arrêtes de te faire violence constamment en te disant mais non, allez, ça va aller, machin.
Mais d'ailleurs, tu sais. Pardon.
Oui, juste, non, le quotidien reste compliqué, hein, faut pas non plus. Mais en tout cas, ça donne des outils supplémentaires.
Bah, disons que t'es conscient de qui tu es et de ce dont t'as besoin. Et en fait, c'est ça que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure. C'est ça qui m'a menée aussi à la conscientisation de l'autisme chez moi. C'est que, en fait, en thérapie, d'apprendre à se respecter, en fait, ça te permet d'exprimer qui tu es vraiment aussi, en fait. Et du coup, j'ai bien compris en arrêtant de me forcer et de faire semblant au maximum, parce que je pense que le camouflage est toujours bien 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 présent, je me suis rendu compte que ouais, il y avait des choses qui avaient complètement changé, qui étaient parties, et il y a d'autres choses qui se sont confirmées, affirmées et amplifiées. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un fonctionnement qui est inhérent à ce que je suis, en fait. Donc, et je pense que vraiment que c'est l'autisme, en fait, qui s'affirme, en fait, et qui se confirme. Et les TOC aussi, mais de toute façon, les TOC, c'est pareil. C'est un trouble neurodéveloppemental, enfin, c'est la même, enfin, visiblement, enfin, de ce que j'ai compris ces derniers temps.
Mais non, mais moi, c'est un peu ce que j'ai réalisé aussi quand j'ai fait de la TCC.
Oui.
C'est que en fait, on pouvait me donner tous les outils, tous les exercices, machin. Déjà, rien que ça, c'est tellement pas mon fonctionnement, déjà à la base, qu'il faut que je me force pour rentrer dans le fonctionnement du truc. Donc déjà, ça part mal. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça va vraiment contre ma façon de fonctionner, quoi. Et ensuite, je me suis rendu compte que, en fait, si je prends par exemple les séances d'exposition donc, pour la phobie sociale dans le tram, etc., il y en a qui se passaient très bien, il y en a qui se passaient moins bien, etc., mais en fait, ça changeait rien, au fond. Ça changeait rien. Je me sentais plus ou moins bien dans le tram selon comment je me sentais, en fait, et c'est selon ça, si je subissais beaucoup d'agressions.
Oui, et puis quelle était ta réserve d'énergie et
oui,
de tout ça.
Voilà. Hein. Mais en fait, les exercices en eux-mêmes. Donc ouais, ça, je me suis dit non, la TCC.
Non, mais c'est ça. En fait, de savoir qu'on est autiste permet de savoir ce sur quoi on a la main et ce qu'on peut modifier pour de vrai.
Et quand tu dépasses tes limites, et c'est ta réponse, enfin c'est ton choix, c'est-à-dire que tu te dis à un moment donné, bon bah là j'ai envie d'essayer, donc voilà, bon bah je vais le payer après, mais en tout cas voilà, ça permet de déjà de se sentir, au lieu d'avoir l'impression d'être malmené par un truc que tu maîtrises pas, que tu connais pas, en fait tu sais
voilà. Tu choisis et c'est toi qui jauges en fait de la balance.
C'est beau, non?
Oui.
Il paraît qu'une grenouille a réussi à escalader une falaise alors que toutes les autres lui disaient que c'était impossible, mais elle a réussi quand même parce qu'elle était sourde. Donc ça se trouve, je vais trop réussir ma life, quoi. Plus je vais devenir sourde, mieux je vais réussir.
C'est un peu complètement débile.
Eh oh,
le chemin, il est plutôt là, en fait. Enfin, t'en as un autre au fond, mais c'est loin, quoi. Ouais.
Moi, j'ai décidé de d'entamer des démarches, de prendre rendez-vous au CRA. au CRA, voilà.
Au CRA.
Une
catastrophe. Voilà.
Non, bon, je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est encore en cours, en fait.
Ouais, et puis voilà. Ce sera le sujet dans notre épisode aussi.
Mais voilà, en tout cas.
Tu as fait la démarche.
J'ai fait la démarche. Je savais, puisque j'avais quand même. Je m'étais un peu documentée sur des groupes de personnes concernées, soit diagnostiquées, soit en cours de diagnostic, etc. Donc je savais que c'était un peu le parcours du combattant. Mais bon, voilà, j'ai voulu essayer d'y aller sans a priori, en me disant, écoute, tu verras bien, après tout, c'est quand même des soignants qui sont censés être spécialisés, donc... Mais bon, voilà, j'y allais avec prudence, on va dire, mais ouverture. Et rapidement, donc j'ai eu qu'un seul rendez-vous pour l'instant, qui n'a pas été vraiment à la hauteur de mes attentes, enfin... en tout cas, de ce que j'espérais. J'ai eu la sensation d'être... Bon, c'était pas un médecin. La personne qui m'a reçue, c'était un infirmier. Mais j'ai eu la sensation de pas forcément être face à un soignant qui était très au fait de l'autisme, justement, chez les personnes assignées femmes. Et voilà. Et
le diagnostic tardif.
Oui, le diagnostic tardif. Enfin, j'ai dû quand même lui dire ce que c'était que les stéréotypies, ce que j'ai trouvé quand même étonnant. Enfin voilà, en gros, j'ai eu un peu la désagréable impression d'arriver, enfin d'en savoir plus que lui finalement sur le sujet quoi. Donc bah j'espère que le prochain rendez-vous qui sera avec le médecin sera un peu plus se passera mieux, voilà. Mais c'est en tout cas c'est vrai que c'est quand même moi un rendez-vous, le premier rendez-vous qui m'a. Là j'en parle avec distance et tout, mais ça a été très violent. Pour moi, quand même. Et j'ai ressassé ça, et ça m'arrive encore de ressasser ce rendez-vous encore et encore. Mais je me suis sentie invalidée, en fait.
Et moi, c'est pour ça que j'ai trop peur de mettre les démarches en route, enfin de faire la démarche. Hein, ça me fait trop flipper, en fait, de me confronter à ça, parce que je sais que, en fait. Tous les CRA ne sont pas formés au diagnostic tardif.
Il y a un gros retard en France.
Et il y a un gros retard en France et notamment chez les personnes assignées femmes, parce que justement il y a des voilà il y a des spécificités qui sont reliées au genre et donc au camouflage, à ce qu'on attend à la suradaptation, à ce qu'on attend d'une personne assignée femme. Qui a beaucoup plus d'empathie, qui... enfin voilà, du coup on rentre pas dans les stéréotypes de l'autisme en fait, dans lesquels desquels ils ne sortent pas et
oui pour dire rapidement quand même, donc cet infirmier m'a quand même dit à un moment donné que TSA il pensait pas que j'étais TSA parce que on avait été capable d'avoir une discussion lui et moi quoi.
C'est dingue.
Donc, ce qui m'a quand même quand laissé même. Ouais, non, ça m'a laissé très perplexe. Plus que perplexe, en fait. Ouais. Mais...
moi, du coup, j'ai eu un premier contact avec le CRA aussi, hein, qui était de leur demander de m'orienter vers une psy spécialisée dans l'autisme. Et on m'a quand même dit, tous les psys sont spécialisés.
Mais bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Enfin, on m'a renvoyé, on m'a fermé la porte. Enfin, et du coup, moi, je me dis que si jamais un jour je veux faire valider ce diagnostic-là, je passerai pas par.
Bah, en tout cas, pas pour l'instant. Espérant que ça change.
Oui, voilà, alors voilà. Suivant les CRA, en fait, il y a des CRA qui sont au jus, hein, qui sont à jour, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Après, à voir encore.
Oui, j'ai pas vu le médecin.
Oui, donc, à voir. Voilà. Après, voilà. Sinon, en fait, là, on peut commencer à parler d'autodiagnostic aussi. En fait, dire aussi pourquoi les gens. Beaucoup d'autistes, en fait, s'autodiagnostiquent, c'est que. Il y a l'incompétence en fait des CRA et des médecins parce que stéréotypes, psychophobie, méconnaissance en fait de.
Oui, puis encore, je suis désolée, bon, peut-être qu'on en parlera aussi plus tard, mais ce rapport soignant-soigné en France qui est complètement. Moi, j'ai l'impression qu'on me parlait un peu comme une petite fille à qui on allait expliquer. C'est insupportable.
Quoi. Sans citer le manque de considération des patients, la hiérarchisation, le validisme, tout ce qui entre en
compte. Alors, je vais vous expliquer ce qui vous est arrivé. C'est insupportable ça.
Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste.
Mais voilà, en CRA, on se retrouve souvent confronté en fait à des soignants comme ça.
Oui, il y a beaucoup de retours.
Et du coup, si tu veux passer ton diagnostic en libéral, ça te coûte entre 700 et 1000 euros en fait. Donc va sortir une telle somme, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Ou alors en CRA, il y a aussi des délais d'attente qui sont juste monstrueux. En Belgique, le seul CRA qui, quand même, et ça c'est quand même ouf quoi. Le seul CRA qui diagnostiquait les adultes a fermé. Le seul CRA du pays, quoi. Il a fermé et avant qu'il ferme, les délais d'attente allaient jusqu'à 16 ans.
Putain.
T'imagines, mais 16 ans, mais qu'est-ce que tu fais pendant 16 ans, quoi? Mais tu t'as le temps de te suicider je sais pas combien de fois, quoi. Donc du coup, bah ouais, en fait, il y a un moment, bah, les personnes qui, en fait, captent qu'elles sont autistes et se reconnaissent très fort et qu'il y a une résonance si forte, bah en fait, on se dirige vers l'autodiagnostic, quoi. Parce qu'on n'a pas vraiment... Enfin, à un moment, en fait, il faut qu'on trouve des solutions pour aller mieux et vivre mieux, en fait,
mais dans cette société. À préciser aussi qu'un autodiagnostic, c'est pas, ça consiste pas à dire... Bon, bah voilà, je ressens très fort que je suis autiste, donc ça y est, c'est bon.
J'ai vu une vidéo. Voilà. J'ai vu Crazy Ex-Girlfriend, c'est borderline.
Oui, non, mais du coup, on peut expliquer ce qu'est l'autodiagnostic. Ouais. Oui, les gens pensent qu'en fait, l'autodiagnostic, c'est quelque chose. Enfin, voilà, déjà. On te dit, oui, mais c'est une mode maintenant, et puis les gens, voilà, tout de suite, dès qu'ils entendent parler d'un trouble, bah voilà, ils se reconnaissent, et du coup, ils décrètent qu'ils sont ça, ils ont ci, machin, mais l'autodiagnostic, c'est tellement pas ça, en fait, enfin...
C'est tellement plus complexe et long,
c'est... Non, mais c'est ça, enfin, moi, je veux dire, j'ai passé des mois, des soirées, des nuits entières à me documenter sur l'autisme, que ce soit, enfin, voilà, un autodiagnostic, en fait, c'est... trouver tous les tests possibles que tu peux faire, et je te parle pas des tests sur femme actuelle ou je ne sais quoi, hein, je parle de vrais tests en fait qui sont utilisés pour les diagnostics officiels, donc il faut trouver ces tests là. Après t'as bah, effectivement communiquer et voir les témoignages d'autres personnes qui sont autistes en fait. T'as le fait bah, de se documenter le maximum sur le trouble, mais mais du coup quand j'ai au maximum, enfin, et puis voilà, quand on est autiste en plus, du coup on s'arrête pas tant qu'on n'a pas fait le tour du sujet, donc forcément voilà, on se retrouve avec des cahiers, enfin des piles de lectures énormes. C'est, et puis c'est surtout en fait se questionner sur ce que peuvent être tes symptômes. Autre que l'autisme en fait, donc c'est faire des différentiels. Et voilà, en fait, moi aussi ce que je voulais préciser, c'est que quand on a posé mon diagnostic borderline, et ça je l'ai lu en fait, c'est que en fait dans les autres pays, donc Canada, voilà, tous les pays qui sont plus avancés, quand on fait passer des évaluations pour le trouble borderline, on fait un différentiel pour l'autisme, parce que ce sont deux troubles qui peuvent se chevaucher, qui se ressemblent, enfin voilà, il y a un moment... mais voilà, bon, après, il y a des différences, en fait, dans les mêmes symptômes, pour le trouble borderline et pour l'autisme, il y a des différences. Mais voilà, donc c'est en fait se documenter, discuter avec d'autres personnes, passer des tests, se documenter sur tous les autres troubles qui existent pour voir, pour faire des différentiels. Enfin, en fait, il y a un moment... Enfin, c'est sérieux ce qu'on fait, et puis, en fait, on est pas là... On est là pour trouver sincèrement en fait ce qui se passe en nous et ce qui se passe chez nous, enfin oui, cette idée que
c'est pas de la rigolade quoi, c'est pas
oui, cette idée que peuvent avoir les soignants parfois, enfin comme si on avait envie d'être autiste, tu vois, comme si je sais pas, c'est un peu absurde,
oui, c'est comme le fuir dans l'autisme,
oui voilà.
Non, mais comme si c'était avantageux en plus, tu vois, d'être autiste.
Mais en tout cas, moi je dois dire quand même que suite à mon premier rendez-vous au CRA, ça m'a fait un bien fou par contre de pouvoir en parler à toi bien sûr, mais aussi sur internet, à la communauté, fait, et tous les groupes absolument géniaux qui existent et sur lesquels on peut partager toutes ces expériences désastreuses avec les soignants.
Tout à fait.
Pas que ça, mais notamment ça.
Mais c'est ça. Mais d'ailleurs, en fait, dans la communauté des autistes, en fait, l'autodiagnostic est validé direct, en fait. Parce que les personnes sont passées par là. Et en fait, et d'ailleurs, il y a beaucoup de psy aussi qui affirment, enfin, qui disent, mais en fait, moi, les personnes... autistes que j'ai diagnostiquées, à la base, elles se sont auto-diagnostiquées, et la majorité, je dis pas la totalité, parce que, bah oui, il y a peut-être des personnes qui se trompent, parce que ça peut arriver aussi de se tromper,
sûr, ouais.
Mais la majorité des personnes qui s'auto-diagnostiquent, en fait, sont autistes.
Mm.
Et en fait, si on tombe sur un psy compétent, un ou une psy compétente, qui va nous entendre et chercher avec nous et vraiment nous accompagner, ça peut aller très vite aussi. Ça peut être bien fait, en fait. Mais voilà, ça dépend encore une fois sur qui on tombe. Et,
Mais il y a aussi des psys autistes,
oui,
qui remettent en cause le système, justement, de diagnostic.
Ils sont où?
Ils sont sur Internet, en tout cas.
Ils sont sur Internet, quoi. Mais je veux aller les chercher, ces gens-là. On a besoin d'eux. On a besoin de personnes qui s'y connaissent vraiment, en fait.
Et moi, ça me rend tellement triste, je jure.
Ben, moi, je garde espoir que ça change. Et je pense que ça va changer. Après, c'est très long et...
Mais non, mais voilà, moi je pense que tout ce qu'on fait, ça fait partie de tout ça. Et il faut continuer à le faire. Mais après, voilà, je crois qu'il faut aussi être sur le terrain. C'est ça aussi qui...
Après, c'est dur. Enfin, le problème, c'est qu'on a besoin, en fait, de ce diagnostic pour avoir... On a besoin de reconnaissance, en fait. Quand on a un diagnostic tardif et quand on se rend compte à l'âge adulte, en fait, qu'on a ce trouble-là... Oui. On a vraiment besoin de reconnaissance, parce que de la reconnaissance qu'on n'a pas eue en fait étant enfant et dont on aurait eu besoin pour avoir des aides adéquates en fait et une réponse adéquate à nos besoins. Et du coup, arriver à l'âge adulte, voilà, quand il y en a qui se disent ouais, mais de toute façon, après le diagnostic, mais ça changera rien. Mais en fait, ça change beaucoup de choses, ça change énormément.
C'est énorme. Mais les gens qui disent ça ne se rendent absolument pas compte.
Mais moi, j'ai envie de les tarter, les gens qui disent ça.
Non, mais oui, non, mais t'as raison, je comprends. Hein. Moi, c'est pareil, je. C'est énorme, en fait. Mais j'avais vu, je crois que c'était sur l'association francophone des femmes autistes, là. Il y avait toute une série d'articles sur le pourquoi, enfin, pourquoi l'intérêt d'un diagnostic à l'âge adulte et qu'est-ce que ça change. Et tu vois tous les arguments. Et en fait, tu te rends compte à chaque fois à quel point c'est énorme, en fait. Que ce soit d'un point de vue personnel, oui, une forme de reconnaissance. Que ce soit parfois aussi pour expliquer aux autres, tu vois. À ta famille, etc. Parce que bah, c'est con, mais des fois, les parents, ils ont besoin d'une reconnaissance médicale.
Mais c'est terrible.
Et en fait...
Pardon, je t'ai coupé, mais c'est la légitimité, en fait. C'est terrible,
oui, c'est ça.
De devoir avoir ce diagnostic officiel pour être légitime d'être ce qu'on est.
Bah, ce serait moins terrible si le diagnostic officiel était... se poser de façon compétente, en fait. C'est là le problème, c'est qu'il y a un tel décalage entre la réalité et le diagnostic qu'effectivement, c'est n'importe quoi. Je pense que dans les familles, ça peut avoir, le diagnostic peut avoir une grosse importance, parce que dans les familles, il peut y avoir justement aussi des désaccords ou même des rancunes par rapport à l'enfance, etc. Enfin, je pense que ce diagnostic, il peut réouvrir... le dialogue de manière différente.
Peut-être expliquer à certains parents le pourquoi du chaos de leur vie, quoi. Parce que généralement, en fait, les parents comprennent que eux aussi sont autistes parce que leur enfant a eu un diagnostic d'autisme, en fait. Ouais. Donc, c'est important à plein de niveaux, en fait. Au niveau de la reconnaissance, de la légitimité, de l'accès aux aides.
De l'histoire familiale.
De l'histoire familiale, et de l'inscription de ce qu'on est dans notre quotidien, dans nos relations, c'est trop important, en fait. C'est trop important de savoir Et puis ouais, tu parlais, là je relis le mot identité, tu vois, mais c'est ça, en fait, tu parlais de l'importance de...
Alors oui, moi quand même, enfin pardon, du coup je t'ai coupé.
Ouais, non mais juste de savoir qui on est, en fait, parce qu'en fait, après tout ce temps, on sait plus vraiment qui on est, en fait. Et quand on reconnecte avec son soi, tu vois, réel, en fait, tu dis, mais c'est pour ça, tu vois, dans le premier épisode, je dis, mais je peux plus faire semblant, je peux plus, et je veux plus.
C'est ça.
Et si on me croit pas, ben en fait, j'ai pas besoin de le prouver, en fait. Moi, pour moi-même. Et c'est pour ça, moi, la validation du diagnostic, c'est chiant parce qu'il y a toujours ce doute qui revient, parce que voilà, l'importance, tu vois, et la vérité absolue et la parole des soignants et des psys.
Il y a quelque chose qui s'est posé, il y a un soulagement au niveau identitaire, parce que c'est pareil, il y a des explications, en fait. Il y a ce que je ressens, cette espèce de tumulte intérieur qui veut jamais se poser, qui arrive jamais, enfin cette étrangeté même que je peux ressentir par rapport à moi-même, alors effectivement elle vient de tout ce camouflage en fait qu'il y a eu pendant des années, etc. Et mais d'un coup le fait de me dire je suis autiste, en fait, il y a plein de choses qui sont retombées aussi à ce niveau-là. Et ça m'aide à accepter vraiment qui je suis avec mes particularités, j'ai l'impression. Fou.
Non, mais c'est ça. C'est en fait aussi, ça permet de s'accepter tel que l'on est. Et de comprendre en fait que... Ouais, putain, Damien.
C'est bon, celui-là, quand même. Si j'ai besoin d'un son d'avion, c'est bon.
Tu l'as. Putain. Ah ouais. Ah, mais c'est un hélico, c'est pas un
hélico des urgences, c'est à côté. C'est le dragon.
Le dragon.
Ah ouais, il s'appelle
le dragon.
Mais où? Non, c'est vrai.
Le dragon.
Dracarys.
On en revient aux stéréotypes hein, sur l'autisme, mais comme voilà, comme on disait, nous aussi, on a eu cette vie. Enfin, moi, j'ai oui. Une des premières choses que j'ai écrites dans mon cahier d'autodiagnostic justement, c'est mais en fait, j'avais cette vision quand j'étais enfant et ado de bah voilà, de l'autiste, soit génie, soit idiot savant là, comme voilà, mais alors qu'en fait c'est bien plus que ça et c'est bien plus complexe que ça et que c'est fou qu'il y ait tout un tas de stéréotypes qui tournent autour de l'autisme. Je comprends pas en plus. Pourquoi...
Alors après, je pense que encore une fois, les stéréotypes ils sont aussi dus au fait qu'il y a une confusion déjà entre bah, encore une fois dans le spectre autistique, t'as tellement de différences en fait avec des personnes non verbales. Des personnes, enfin voilà, c'est tellement large que il y a des personnes effectivement qui ont des handicaps lourds, avec parfois une dépendance, etc., ou qui passeront leur vie en institution. Donc c'est sûr que je pense que pour le grand public, à un moment donné, il y a une difficulté d'arriver à concilier à la fois des personnes avec des handicaps lourds ou des personnes avec un handicap invisible en fait. Et que ça fait partie en fait, que tout ça fait partie de l'autisme en fait, tu vois.
Après il y a ce truc, tu vois, qui me chiffonne vachement de cette différenciation justement, tu vois, et qui du coup, enfin voilà, le terme TSA justement,
mais ça pose une question hyper intéressante parce que comment dire, de ce qu'on considère comme handicap ou pas.
Oui, c'est ça.
Parce que ça... Mais ouais, mais c'est...
Mais du coup, c'est plus sur une échelle, en fait. C'est vraiment comme, oui, comme sur une roue, en fait. Et voilà, il y a une différente... Il y a différentes expressions de l'autisme, en fait. Et c'est vraiment ça que quand même, on cherche... Enfin, vers quoi ça tend, en fait, de plus en plus. Mais voilà, qu'est-ce qui est acceptable, en fait? Tu vois, encore une fois, quand on parle du HPI... Quand beaucoup d'autistes, quand on leur dit oui, mais vous êtes certainement HPI, comme si c'était valorisant en fait.
C'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce qui m'est arrivé, ouais, au CRA. Et j'ai senti qu'en fait, c'est comme s'ils voulaient me rassurer en me disant ah, mais vous avez l'air super intelligente. Alors que en fait, c'était pas du tout le propos, du tout en fait.
Oui, mais c'est ça. Mais
je pense que pour lui, c'est oui, comme si c'était antinomique finalement le fait que j'avais des grosses capacités, même d'après lui, j'avais des capacités sociales trop importantes en fait.
Ce qui prouve à quel point il n'est pas au jus du diag tardif et du camouflage et tout ça, quoi. Mais c'est pas tout à fait le validisme, quoi, parce que le validisme, c'est vraiment le fait de considérer que bah, les handicapés doivent faire des efforts pour correspondre à une certaine norme, en fait. Mais ça rentre là-dedans, tu vois, le fait de ne pas considérer... c'est un manque, donc, de considération, en fait, du handicap et de la différence, quoi. Enfin, c'est vraiment... Et puis c'est mal vu d'être handicapé, comme c'est mal vu d'être gros, comme c'est mal vu d'être homosexuel, comme c'est mal vu de... Enfin, c'est de la stigmatisation. Enfin, comme si c'était plus valorisant. Enfin, je veux dire, en fait, autisme ne veut pas dire déficience intellectuelle aussi. Je crois qu'il y a ça
non,
aussi.
Non, mais en fait, ça marche dans les deux sens, quoi. Ça veut pas dire déficience intellectuelle. Oui, alors ça, tu peux le... C'est valable pour, en général, tous les patients en psy. Hein. Les patients en psy, y a une confusion avec déficience intellectuelle.
C'est ouf, hein.
Généralement, hein. Donc ça... Bah ouais, c'est fou.
De mieux en mieux. Évidemment que ce sera de mieux en mieux. Un jour, ce sera joyeux.
En fait, pour moi, ça change tout aussi dans la globalité par rapport à... Enfin, voilà, on parlait d'identité, on parlait du genre, on parlait... Enfin, d'un coup, je me sens capable d'assumer des choses que j'ai toujours ressenties. Mais il me manquait quelque chose, il me manquait un maillon ou une pièce du puzzle pour pouvoir les assumer, en fait. Ces choses que je sentais, notamment par rapport au genre, etc., qui sont là depuis l'enfance, hein, depuis toujours, en fait. Et ce truc-là qui vient, que d'un coup tout vient s'articuler, en fait, enfin, là, de finalement tout ce qu'on a pu dire, c'est ça que je retiens, quoi. C'est vraiment ça que je retiens. Et c'est énorme, en fait. Et en si peu de temps, tu vois, en si peu de temps, en fait. Quand même, ça fait pas longtemps.
Ouais, enfin, ce que je disais aussi tout à l'heure, oui, tu vois, ben, ça ouais. fait pas longtemps, ça fait
non, mais
en quelques mois, mais en fait, oui, ça fait des années. Enfin, moi, fait des années que je cherche à comprendre pourquoi je suis comme ça. Mais quand je te dis des années, en fait, c'est depuis mon enfance, en fait, que je me sens à l'écart et différente, oui. et que je cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis ça s'est aggravé, en fait, plus le temps passait, plus ça s'est aggravé, parce qu'en fait, bah, tu deviens adulte et que tu vois bien que, en fait, t'es encore plus en décalage avec les autres. Et puis un jour, tu te dis, ok, je vais vraiment prendre soin de moi, et puis un jour, tu comprends, en fait. Et tu sais quoi, moi, la validation, en fait, j'en ai pas...
Au fond, on n'en a pas besoin.
On n'en a pas besoin.
Dans le sens où par rapport à notre vie... Ça nous apporte déjà, en fait. Ça nous a déjà... Enfin, ça nous... Enfin, cette conviction...
Moi, j'ai le ventre qui s'est dénoué. Tu sais quoi, en plus, c'est marrant, parce que je disais à une amie, il y a des années de ça, je lui disais, le jour où j'irai bien dans ma vie, c'est le jour où j'arriverai à danser la boule que j'ai dans le ventre, en fait. Et je l'ai pas dansée vraiment, mais cette boule, je l'ai sentie se dénouer, en fait. Et c'est quand j'ai compris que j'étais autiste et quand j'ai compris que j'étais à genre aussi. Ça, c'est... Putain, mais comme par magie, quoi, je te jure. Et le problème, peut-être un truc que j'aimerais aussi aborder, c'est que on a grandi aussi avec... Enfin, moi, j'ai grandi, du coup, avec beaucoup de psychophobie intériorisée, avec du rejet, de l'autodestruction, de... Et toutes ces pensées, en fait, de merde, et ces préjugés, et cette stigmatisation, ces stéréotypes, ben, je les ai intégrés, en fait. Je les ai en moi, en fait. Et du coup, j'ai des relents de violence, quand
mais,
même.
Mais c'est ce qu'on disait, on s'auto-flagelle quand même régulièrement.
Ben, tu vois, là, quand je te disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui que je te dis ça, que pendant une semaine, j'ai passé la semaine à me dire que j'étais juste... quelqu'un de normal qui dit qu'elle est autiste alors qu'en fait c'est pas le cas et que je devrais avoir honte et que tu vois j'ai des pensées mais qui sont super violentes
ouais,
et
non,
puis,
mais
puis derrière après je bah il y a tout après direct en fait il y a plein de facteurs qui me montrent bien que bah, non en fait j'ai mis le doigt sur la chose
non mais on a grandi avec des discours enfin moi c'est pareil
non, mais c'est ça
des discours où en fait dès qu'il y a un truc qui va pas ou qui c'est toi qui es responsable en fait
et oui puis on en fait trop et puis
oui et puis en fait compte, si
c'est
ça
c'est l'invalidation si ça, quoi
ouais voilà et puis entrevois quand même ce truc de manque de volonté que de toute façon
ça quoi. C'est du validisme pur et dur quoi
ouais. Bah ouais.
Fais des efforts.
Et on a grandi avec ces discours-là. Alors que moi, j'ai l'impression de passer ma vie à faire des efforts, tu vois.
Mais c'est ça.
C'est fou quand même. Ils voient pas.
J'ai l'impression d'être quand même au bout du voyage de l'errance, quoi.
D'être arrivé quelque part.
Un peu, ouais. C'est fatigant, hein.
Oui. C'est fatigant, c'est vrai.
Mais en même temps, plus on avance et plus du coup, plus on sait en fait, et et plus on a les bons outils pour on a les bonnes armes quoi pour combattre. Et
mais c'est ça aussi, c'est là que je sens moi aussi que l'autisme c'est juste, c'est que je sens que les outils que ça m'apporte, cette prise de conscience, etc., sont justes, en fait, et fonctionnent, en fait. Fonctionnent là où toute autre chose a échoué.
C'est ça.
C'est ça, en fait, que je devrais dire aux soignants, tu vois, quelque part. C'est que tout ce qui a échoué avant, ben, en fait, là, ça marche.
C'est ça. Donc, tout comme en fait, quand on a pris conscience de l'autisme, ben, ça faisait tellement de sens, ben, c'est pareil, en fait. On comprend, du coup, pourquoi... Ben, toutes les thérapies, toutes les démarches qu'on a fait ne fonctionnaient pas, en fait.
Mais tu vois, même ce fameux apprentissage des limites, etc., ça fait des plombes hein, qu'on m'en parle en thérapie pour le trouble borderline, etc. Mais en fait, il n'y a qu'aujourd'hui que je sens que j'arrive à vraiment l'incarner, enfin le vivre, etc. Parce que, en fait, encore une fois, mon histoire fait sens pour moi-même. Donc du coup, bah forcément, les choses se mettent en place, quoi.
Non, mais c'est dingue.
Mais oui, c'est dingue, la puissance, quand même. C'est pour ça que je te disais que ça a été rapide, parce que même si, effectivement, ça traînait depuis un moment, à partir du moment où on l'a posé, pour moi, ça a provoqué des changements très rapides dans ma vie, quand même.
Ouais, pareil.
C'est plus efficace que n'importe quelle autre putain de thérapie que j'ai jamais
fait.
Mais c'est fou, cette sensation de sérénité, et qui va, je pense, avec ce que tu décris, cette sensation d'être adulte, en fait, d'être capable de prendre soin de soi. Mais c'est fou, quoi. Enfin, tu sais, moi, une fois, je me disais, mais... Ah ouais, ça fait ça. Enfin...
Tu savais que le cœur d'une girafe, ça pèse en moyenne 11 kg et que ça pompe 75 litres de sang par minute. C'est ouf, hein?
Bon, bah, si tu veux savoir, l'anglais, c'est trop naze. Il n'y a même pas de mot qui existe pour dire banquise. Des fois, ils disent ice sea, des fois, ils disent ice flow. Il n'y a pas de mot pour la banquise, quoi. Ça n'existe pas, c'est nul. C'est génial comme mot, la banquise, quand même. Mais tout ça...
Ça se dit pas.
Ça se dit pas. Ça ne se dit pas.